CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste reporter pour CDI Média et je suis en compagnie de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et l'auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Salut Mickaël.
Dans nos précédents épisodes, Sylvain, nous avions raconté l'histoire de Coco Chanel qui s'imposa et qui imposa d'ailleurs une certaine image de la femme à travers son style. Aujourd'hui, nous allons parler de Christian Dior, que l'on peut qualifier un peu d'inverse de Coco Chanel, tant par son origine que par sa mode qui était différente et éloignée. Et pourtant, il arrivera à devenir lui aussi incontournable. Découvrons ensemble donc l'histoire de Christian Dior.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, Christian Dior est né en 1905 en Normandie.
Oui, donc il naît au début du siècle dans une famille nombreuse et aisée. Donc tu as dit, Mickaël, que c'était un peu l'anti-Chanel, y compris par ses origines. Donc c'est exactement le cas. Chanel a une enfance, une origine très modeste. Dior naît dans un milieu très bourgeois. Donc son père est un industriel dans les engrais. Il a des usines d'engrais à partir de guano, donc les fientes d'oiseaux, comme ceux qui ont lu Tintin connaissent bien. Et c'est un industriel prospère. Donc le jeune Christian Dior grandit entre des manoirs en Normandie et les beaux quartiers de Paris, dans un milieu très, très privilégié socialement.
Donc une enfance plutôt confortable.
Oui, une enfance tout à fait confortable. Donc quand la guerre éclate, il est bien sûr trop jeune pour être mobilisé. Donc il passe entre les gouttes de la guerre. Donc c'est une enfance plutôt studieuse. C'est un élève, c'est plutôt un bon élève, même s'il n'est pas forcément très ambitieux et très travailleur.
Il travaille pas trop, mais voilà.
C'est quelqu'un d'intellectuellement brillant, mais pas forcément de très travailleur à l'école. Plus porté sur les arts et sur le dessin que sur les sciences et les mathématiques.
Tu as parlé de la Première Guerre mondiale. Il n'a pas été mobilisé parce qu'il était trop jeune, mais il était quand même patriote.
Oui, il était patriote. Je dirais comme probablement l'était un peu tout le monde à l'époque. Hein. Il suivait les actualités sur le front, il revenait des batailles avec ses petits soldats, il ne voulait pas apprendre l'allemand parce que c'est la langue de l'ennemi, etc. Mais voilà, c'était encore un enfant, il a une dizaine d'années au moment où la guerre éclate. Et donc il grandit vraiment dans ce cocon privilégié, loin de la guerre, loin des privations, loin du besoin. Donc c'est un enfant assez, on va dire assez timide, assez réservé, un peu rêveur. Vraiment plus porté sur les arts que sur les sciences dures, disons.
C'est ce que tu as dit, hein, il est porté sur les arts, mais par contre, c'est pas trop du goût de sa famille, les arts.
Voilà, son père est quelqu'un, un industriel, un chef d'entreprise, assez, on va dire, traditionnel, austère, bien, on va dire, comme il faut. Pour lui, son fils doit faire des études, doit réussir socialement. Donc, ce qu'il envisage pour son fils, c'est de faire Sciences Po. Christian Dior, lui, alors, a tout à fait le niveau intellectuel pour faire de grandes études, mais Sciences Po, ça ne l'intéresse pas vraiment. Bon, il s'y inscrit, on va dire, poussé par son père. Mais il n'est pas du tout assidu en cours, il passe beaucoup de temps dans les cafés, à fréquenter des artistes, à faire la fête. Il vit son homosexualité, évidemment, loin de sa famille, qui on l'a dit, est assez austère, assez traditionnelle des choses, et qui n'accepterait pas forcément de connaître ce détail de la vie de leur fils.
Il vit un peu caché, cette partie-là.
Voilà, il a un peu une double vie. Il a sa vie dans sa famille, avec son père, où c'est un peu le bon fils de bonne famille, étudiant à Sciences Po. Et il y a sa vie, on va dire celle qui l'a fait vraiment vibrer, avec des artistes, avec toute la communauté, on va dire, homosexuelle de Paris de l'époque, qui font la fête jusqu'au bout de la nuit, dont certains vivent un peu dans la bohème et lui donne un petit peu d'argent à droite à gauche parce que bon, il a des moyens matériels très confortables. Et bon, évidemment, arrive ce qui doit arriver, il finit par quitter Sciences Po parce qu'il sèche tous les cours, il vient jamais, ça l'intéresse vraiment pas. Et donc il arrête ses études et il veut se lancer dans l'art, dans le commerce d'art.
En parallèle, il y a aussi le service militaire, hein, parce que c'est l'âge, il va avoir un service militaire complètement ennuyant pour lui.
Oui, alors il fait le service militaire, il a pas du tout une âme de militaire, c'est pas du tout son caractère, c'est pas du tout un bagarreur, il aime pas recevoir des ordres, c'est vraiment un rêveur et un artiste, donc l'armée c'est vraiment pas fait pour lui, donc le service militaire, il le vit vraiment comme une contrainte, il le fait parce qu'il doit le faire, mais il ne naît absolument pas une vocation militaire à ce moment-là.
Donc on dessine le portrait là un peu de Christian Dior et tu l'as dit, lui il est vraiment porté vers les arts, il a envie de faire ça.
Voilà, et son projet c'est d'ouvrir une galerie d'art, donc d'être marchand d'art. Et donc il connaît plein d'artistes, hein, tous les artistes en vogue de l'époque. Et donc, il demande à son père de lui avancer des fonds pour ouvrir cette galerie. Et c'est assez cocasse parce que son père accepte à une condition, c'est que le nom de Dior ne soit pas mentionné sur la boutique. Parce qu'il trouve dégradant et infamant d'être associé à une activité aussi vulgaire, aussi banale que du commerce d'art.
Mais il devait beaucoup aimer son fils quand même pour le faire.
Oui, certainement, parce que c'était pas du tout ce qu'il avait envisagé pour son fils. Il avait envisagé une carrière plutôt dans la diplomatie. Mais bon, voilà, son fils a su le convaincre que c'était pas fait pour lui. Et le père a fini par céder, à condition, c'est vraiment intéressant de le remarquer, que son nom ne soit pas associé à ce commerce d'art.
Et donc, du coup, il ouvre sa première galerie d'art avec un ami.
Voilà, avec un ami, ils ouvrent une galerie d'art, donc c'est un commerce assez modeste, hein, c'est pas du tout un grand collectionneur d'art. Et l'aventure, je dirais, va tourner assez court parce que arrive le crack de 1929,
la
grande crise économique. Et le père de Christian Dior, donc, qui était un industriel et homme d'affaires, avait fait beaucoup de paris boursiers, de placements risqués. Et tout ça tourne très mal, et c'est la ruine. Donc la famille Dior, qui vivait jusque-là dans l'opulence, se retrouve un peu du jour au lendemain ruinée. On rajoute là-dessus le décès de la maman, l'internement pour problèmes psychologiques du frère, et la tuberculose de Christian Dior. Donc c'est vraiment la série noire pour Christian Dior, la période 1929.
Et pour la famille Dior en général.
Pour la famille Dior en général, mais y compris pour Christian Dior. Donc qui se retrouve malade, ruiné, qui part se soigner au soleil, à Ibiza, pour avoir un environnement plus sain, et qui revient à Paris sans un sou. Parce que,
il revient à Paris les poches vides.
Les poches vides, donc il a dû fermer sa galerie d'art. Sa famille ne peut plus l'aider financièrement, puisque eux-mêmes sont étranglés par les mauvaises dettes contractées par le père.
Son père a vendu toutes les maisons.
Voilà, c'est vraiment la ruine chez la famille Dior.
Et donc, il doit trouver un moyen de gagner sa vie.
Voilà, il doit trouver un moyen de gagner sa vie. Alors, il lui reste quelques toiles qu'il vend. Il parvient à vivre comme ça. Il a des amis dont certains ont un peu d'argent. Donc, il habite chez les uns les autres. Lui-même avait aidé un peu des amis dans le besoin par le passé. On lui rend un peu l'appareil. On l'aide un petit peu. Et il cherche à travailler. Donc, il cherche à travailler un peu partout. Il frappe dans des banques. Il frappe dans des compagnies d'assurance. Il frappe des portes dont il connaît pas vraiment ces métiers-là, mais il essaie un petit peu partout. Il n'a pas forcément de formation, on va dire, appliquée. Hein. Il a surtout fréquenté des artistes, donc il n'a pas appris un métier en tant que tel.
Mais c'est ses fréquentations qui vont lui donner une piste.
Voilà, donc parmi ses fréquentations, il y a des dessinateurs, et notamment des dessinateurs de mode. Donc il dessine des robes, des modèles pour des couturiers. Et donc lui aime l'art, la mode, le dessin, et ils lui disent ce que tu voudrais pas, voilà, tu cherches un métier, pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas là-dedans ? Donc il devient, aujourd'hui on dirait freelance, dessinateur de mode freelance, donc il commence à faire quelques dessins qui sont vraisemblablement de très bonne qualité, puisqu'il arrive à les placer chez des grands couturiers de l'époque, hein, Balenciaga, Schiaparelli et d'autres. Et donc il fait un petit peu son trou dans le dessin de mode. Donc il rentre dans la mode en fait un peu par accident, parce qu'il avait besoin d'argent et que des amis lui ont dit tiens, tu pourrais essayer de faire des dessins de mode.
Donc il se fait remarquer dans ce petit milieu parisien de la mode.
Voilà, il fait petit à petit son trou, on apprécie son travail et il finit par être embauché uniquement par un seul couturier, hein, donc Robert Piguet, qui aujourd'hui est assez oublié, mais qui à l'époque était un couturier en vogue. Donc avant il était freelance, là il devient salarié à plein temps de ce couturier pour faire des dessins de mode.
Mais il va y avoir un nouveau stop.
Voilà, le nouveau stop, c'est évidemment la guerre, Deuxième Guerre mondiale, 1940. Donc il est mobilisé. Alors, il est mobilisé loin du front. Il s'occupe de logistique, de convois alimentaires pour les troupes. Donc il est, on va dire, à l'abri des balles.
Ah, il a eu un peu de chance. Il a évité les deux gros conflits.
Voilà, une fois il était trop jeune. Et puis le deuxième conflit mondial, il était sur un poste donc dans l'armée, mais à l'arrière. Donc il est loin des combats. Donc bon, on connaît l'histoire. L'armée française s'effondre. Lui part, donc est démobilisé, part dans le sud de la France, près de Cannes, pour être loin de... en zone libre, hein, comme on appelait ça. Donc il végète un petit peu, comme beaucoup de Français à l'époque. Il fait un peu de jardinage avec sa famille pour avoir un peu à manger, puisque on l'a oublié, mais c'était des conditions... voilà, il fallait trouver à manger chaque jour, c'était pas forcément facile.
Conditions de guerre.
Voilà, conditions de guerre. Donc il passe plusieurs années dans le sud de la France à juste essayer un petit peu de survivre, à voir un petit peu comment évoluent les événements. Et puis il finit par remonter sur Paris vers la fin de la guerre, et il trouve un autre emploi, donc de dessinateur de mode, chez un autre couturier, donc Lucien Lelong, pareil, un couturier très très connu à l'époque, mais assez oublié aujourd'hui.
Mais il a d'autres ambitions après la guerre, il a des ambitions.
Voilà, donc pour l'instant, il était juste dessinateur, salarié. Et au fil de ces années, en tant que dessinateur, il a découvert le monde de la mode, il a vu de l'intérieur le fonctionnement d'une maison de mode, et il a des idées. Il se dit, moi j'ai aussi des idées pour faire tel et tel style, et il a envie de se lancer. Donc jusque-là, il était uniquement salarié, et après la guerre, à la libération, il va décider de lancer sa propre maison, donc sa maison Christian Dior. Et pour se lancer, il va trouver un investisseur en la personne de Marcel Boussac. Donc Marcel Boussac, c'est encore un nom aujourd'hui un peu oublié, mais qui était très important à l'époque. Ça a été très longtemps une des plus grosses fortunes de France, si ce n'est l'homme le plus riche de France. C'était l'homme qui avait les manoirs en Sologne, où tous les grands noms de la politique allaient chasser, qui avait les plus belles écuries de courses, de chevaux. C'était vraiment une personne absolument centrale dans le capitalisme français, qui ensuite a fait faillite dans les années 60-70 et qui est mort dans la pauvreté. Mais c'était un industriel dans le textile, Marcel Boussac. Son cœur de métier, c'est le textile. Et donc, il lui fallait vendre du textile.
Il fallait vendre du tissu.
Il fallait vendre du tissu. Et il se trouve que la mode de Dior, à l'inverse de la mode de Chanel, comme tu l'as dit, nécessitait beaucoup de tissu. C'était une mode très, très opulente. Chanel, son style, c'est sobre.
C'est les grandes robes.
Dior, c'est les grandes robes, un peu, on va dire robes de princesse, un peu l'image qu'on en a. Et donc Marcel Boussac est intéressé par ce couturier parce qu'il se dit si ce couturier fait revenir à la mode des tenues où il y a beaucoup de tissus, moi qui vends des tissus, c'est très bon pour mon business. Donc Marcel Boussac accepte de financer, d'être investisseur dans cette jeune maison de couture.
Ça devient un mécène un peu par opportunité.
Oui, plus qu'un mécène, un investisseur. Il investit, il finance le lancement de la maison Dior, donc, qui est fondée en octobre 1946.
En octobre 1946 se lance la maison Dior, mais il est un peu inconnu Dior encore.
Voilà, il est inconnu, donc il lance sa maison l'avenue Montaigne, qui deviendra une avenue célèbre pour la mode, justement parce que Dior s'y est installé.
Elle n'y était pas encore célèbre.
Voilà, c'était une grande rue de Paris parmi beaucoup d'autres, mais l'image de l'avenue Montaigne en tant que avenue du luxe parisien, ça, c'est en grande partie dû à Christian Dior. Et donc, comme tu l'as dit, Mickaël, il est relativement inconnu. Alors, quelques personnes dans le monde de la mode parisienne le connaissent, mais...
C'est le microcosme.
Dans le microcosme, on le connaît, mais au-delà de ça, on ne le connaît absolument pas. Et il y a son premier défilé, en février 47, qui là va le rendre célèbre du jour au lendemain. Donc avant, il était inconnu. Le lendemain, il est célèbre, il est à la une de tous les journaux. Et avec cette fameuse expression du new look qui est lancée par les Américains, c'est un terme qui vient des États-Unis. Donc il y a ce journal, le Harper Bazaar, qui décrit ce défilé comme étant le new look. Et le terme new look reste associé encore aujourd'hui à la mode de Dior, au style de Dior.
Donc il est adoubé d'un coup grâce à ce premier défilé, il est adoubé par la mode internationale, notamment par les Américains, donne une sorte de nouvel élan, de nouveau essor à la mode parisienne.
Voilà, donc au lendemain de la guerre, la France est ruinée, dans une situation très difficile, alors que les États-Unis sont les grands vainqueurs, beaucoup plus prospères. Et il y a dans l'idée que le centre de gravité de la mode va se déplacer de Paris à New York. Et ça n'a pas été le cas. Et une des raisons, c'est notamment Christian Dior, qui, dès le lendemain de la guerre, réaffirme le talent, on va dire, des créateurs français, les nouvelles idées, une mode, on l'a dit, très différente de Chanel. Les Français sortaient de 5 ans de privation, et donc cette mode opulente avec plein de tissus, plein de couleurs, signifie un peu le retour de l'opulence. Et donc il arrive, je dirais, au bon moment avec le bon style.
Et il est apprécié par de nombreuses personnalités.
Oui, voilà. Alors tout le gratin des têtes couronnées, des stars du cinéma, des grandes politiques se font habiller par Dior. On a cette phrase de Marlène Dietrich qui disait « No Dior, no Dietrich ».
Elle voulait être habillée en Dior dans les...
Si je ne suis pas habillé en Dior sur un film, c'est même pas la peine de faire appel à moi. Donc oui, vraiment du jour au lendemain, ça devient une star. Et il habille tous les grands noms de la planète.
Et donc, il est acharné de travail, mais il est aussi un peu découvreur de talent.
Oui, alors Dior, à partir du moment où il lance sa maison, c'est plus du tout le Dior un peu rêveur qui fréquentait la bohème parisienne. Ça devient effectivement un acharné de travail, un entrepreneur, un chef d'entreprise et aussi un créateur artistique qui garde bien sûr cette fibre artistique. Et il découvre plusieurs talents, notamment Pierre Cardin, qui va embaucher, et surtout Yves Saint-Laurent, le jeune Yves Saint-Laurent, qui arrive d'Algérie, que donc Dior va reconnaître son talent, va l'embaucher très jeune comme assistant, et Saint-Laurent va prendre la succession de Dior lors de son décès brutal.
Justement, tu le dis, la carrière de Christian Dior, elle s'arrête brutalement.
Voilà, donc à 52 ans, donc on est en 1957, une dizaine d'années après qu'il ait lancé sa maison, il meurt d'une crise cardiaque pendant des vacances. Il prenait jamais de vacances.
Et
la seule fois où il a pris des vacances pour se reposer un peu, il a été victime d'une crise cardiaque. Donc il meurt brutalement à 52 ans. Et donc c'est Yves Saint-Laurent qui l'avait fait rentrer dans la maison Dior. Qui prend la relève, qui est encore très jeune, hein, il a une vingtaine d'années, et qui va lui ensuite, d'abord chez Dior, puis avec sa propre maison, connaître également une très grande carrière dans la mode et dans l'entrepreneuriat.
Et Christian Dior, donc la maison de couture, a continué avec de grands noms de la couture qui se sont succédés, et on connaît encore la maison qui est indétrônable.
Oui, alors dans le monde de la mode, Dior est resté bien sûr au premier plan, et dans le monde de l'entrepreneuriat, puisqu'on est là pour parler des entrepreneurs, si on dit un mot de Bernard Arnault, Bernard Arnault au début, donc le fondateur, le président du groupe LVMH, le numéro mondial du luxe, il a commencé en construisant des maisons et des hangars. Et ensuite, dans les années 80, il a racheté le groupe Boussac, qui avait fait faillite, et dans le groupe Boussac, il y avait la pépite Christian Dior. Et donc c'est par Dior que Bernard Arnault est venu au luxe, et que petit à petit, il a construit son groupe LVMH, et qu'il est aujourd'hui, de très loin, le numéro un mondial du luxe.
Grâce à Christian,
voilà.
Donc on retiendra évidemment, Sylvain, que outre son talent de couturier, Christian Dior a réussi surtout à maintenir Paris à la première place mondiale dans la mode, à un moment où la capitale française allait la perdre. Merci Sylvain.
Merci à toi.
Je rappelle, Sylvain, que cette histoire est tirée du tout premier tome de ta série de livres Entrepreneurs de légende français, qui était sorti aux éditions Henrik B et qu'on peut encore trouver partout, si on se permet d'aller chercher, ou dans les librairies, ou sur Internet. Vous pouvez, vous, évidemment, sur Internet, réécouter tous nos épisodes sur toutes les bonnes plateformes audio ou alors sur CDI Podcast. N'hésitez pas à liker, à partager et à en faire profiter tous vos amis, ça nous fera plaisir. À bientôt.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.